Nous allons ensemble ce matin parler d'une loi qui est immuable. Le mot immuable veut dire qui ne change pas, qui ne peut pas être abrogé, qui ne peut pas être modifié, qu'il faut l'accepter et la vivre telle qu'elle est. Il n'y a pas de possibilité ni de la réécrire, ni de la réinterpréter, ni de la modifier au goût des saisons, et je dirais même des sentiments. Mais pour parler de cette loi, je crois qu'il est important pour nous de faire un peu un retour sur la manière où l'apôtre Paul il en parle. Il est question finalement de la loi de l'amour. L'amour de Dieu, qu'on se comprenne très bien. Et lorsqu'on lit dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parlera de l'amour dans l'explication et dans l'exhortation qu'il va envoyer, écrire à la lettre au peuple, à l'église des Corinthiens, mais qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu elle est aussi pour nous. Si ce n'est pas le cas, je trouve qu'on n'a rien compris. Parce que finalement, la parole de Dieu elle est intemporelle. Elle demeure toujours la même, hier, aujourd'hui, parce que celui qui l'a donné, il est comme ça. Ça fait partie de sa nature, de sa personnalité. Alors, en lisant dans la lettre aux Corinthiens, sans aller trop loin, j'ai pris quelques chapitres avant, quelques chapitres après, mais je me suis rendu compte que, par exemple, le chapitre 11, il est question de la tenue vestimentaire, morale et spirituelle dans l'Église. Dans le même chapitre, il est question de la Sainte Cène. Nous venons de la partager ensemble. Dans le chapitre 12, il est question des dons spirituels. Dans le chapitre 13, l'amour. Et dans le chapitre 14, l'exercice des dons spirituels. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui vient faire l'amour? On aurait peut-être mis les dons spirituels et à la suite l'exercice des dons, dont la logique qui pourrait être la nôtre. Mais finalement, si nous regardons bien, il n'est pas là dans un exposé tout simple de théologie. Mais en effet, il est en train d'exprimer ce qui en ressort de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, puisqu'il nous appelle à méditer sur des éléments forts, comme l'amour qui est une loi, et que nous sommes appelés à vivre la loi de l'amour. C'est pas juste quelque chose qui existe pour qu'on puisse parler d'amour et après on fait ce qu'on veut, parce que d'ailleurs, si vous regardez bien, chapitre 11, nous l'avons dit, question de la tenue vestimentaire, morale, spirituelle, mais qui doit être le reflet de l'amour et du respect que nous avons pour Christ et non pas la résultante religieuse. Parce que si je m'habille et que je ne crois pas à cela, je suis un religieux. Mais ma tenue extérieure devrait être le reflet de la tenue intérieure du cœur. Donc si je respecte Dieu, si j'aime Dieu, ben, rien en moi doit faire de scandale ou en tous les cas porter une ombre quelconque à la personne de Dieu parce que je sais que je suis sous le regard de Dieu à chaque instant. Il est question de la Sainte Cène qui est le symbole de l'amour de Christ manifesté à la croix pour l'unité de l'Église et par laquelle nous sommes appelés à vivre pleinement la foi de l'amour envers Dieu mais aussi envers les autres. Puisqu'il nous dit qu'il est question finalement du partage de la communion fraternel. Le chapitre 12, il nous parle des dons spirituels qui sont pour l'utilité commune, l'unité du corps, l'édification des divers ministères. Finalement, l'amour prend une place particulière parce qu'elle est définie encore dans le chapitre 12, verset 31. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, dira l'apôtre Paul. Et là, il nous introduit au chapitre 14, l'amour. Une voie par excellence. Sommes-nous prêts à aller dans l'excellence pour Dieu? Ou est-ce que vous pensez que Dieu va se contenter de quelque chose de médiocre? Est-ce que Dieu était médiocre à la croix? Loin de là. Non? Et je crois que Dieu a aussi droit et que nous soyons dans cette excellence qu'il attend de nous, parce que le but, c'est finalement de produire quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Moi, j'ai mis ceci, l'amour est la colonne vertébrale puisqu'il dit rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais il dit d'abord rechercher. On pourrait croire que l'amour, il est normalement dans notre cœur. Vous avez toujours aimé ? Oui ? Mais parfois, il faut travailler l'amour. Parfois, on est obligé à revoir. Et là, il dit rechercher l'amour, non pas selon le monde, mais selon Dieu. Et aspirer aux dons spirituels. En effet, la première chose, ce n'est pas les dons spirituels. C'est l'amour. Alors, si l'amour est la colonne vertébrale, la parole de Dieu, pour moi, c'est la moelle épinière. C'est elle qui nous communique comment aimer. Et cet amour doit finalement traverser tout le corps. Je ne peux pas ne pas aimer, excusez-moi, mes pieds. Et les pieds ne peuvent pas se dire « j'ai pas besoin de la tête ». Non ? Je crois que quand vous vous faites mal à un pied, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « oh, c'est hors de la personne, ça pose pas de problème ». Hein ? On vous a marché sur l'orteil, vous dites « c'est pas grave ». Ou est-ce que vous exprimez votre ressenti par un hurlement qui réveille le voisinage. Pourquoi ? Parce que malgré que votre orteil peut être le plus gros ou le plus petit, quand ça fait mal, ça fait mal. Et la douleur se transmet partout. Et la bouche l'exprime, non ? Et là, on prend soin de ce petit orteil parce qu'on se dit on ne peut pas rester comme ça. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 36 à 38, regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Waouh ! Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas négliger l'importance de l'amour. Alors quelqu'un pourrait dire ce matin, mais l'amour c'est en effet quelque chose dans lequel on doit se retrouver, l'amour ça se donne, l'amour ça se reçoit, oui, oui. Mais l'amour est un fruit. Ce n'est pas un arbre que vous plantez dans votre jardin. L'amour est le fruit. D'ailleurs, quand un enfant vient au monde, en général, on dit c'est le fruit de l'amour du couple, n'est-ce pas ? Oui ou non ? C'est magnifique, non ? Il y a quelque chose qui manifeste que dans le couple, il y a cet amour. On le voit à l'enfant, c'est un fruit. Et dans la parole de Dieu, alors je n'ai pas donné la référence ce matin, mais vous connaissez le texte de Galates chapitre 5 qui dit au verset 22 « Mais le fruit de l'esprit est amour ». Ça commence par là. Et après, regardez les autres fruits qui doivent être là. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, dit le texte, mais il est question du fruit de l'esprit. Donc si l'amour n'est pas dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, le véritable amour de Christ, tu es comme le figuier auquel Jésus viendra chercher un fruit. Et il n'en a pas trouvé. La conséquence, ça a été quoi ? C'est terrible. Jésus va maudire le figuier. Ce figuier qui était déjà sans fruit, ce figuier qui était déjà dans une situation de stérilité, le texte nous dit que le jour d'après, quand les disciples sont passés, il était complètement asséché. Finalement, si l'amour de Christ n'est pas présent dans ta vie selon les caractéristiques que la parole de Dieu nous enseigne, ça veut dire qu'il y a un problème de stérilité spirituelle dans ta vie, puisqu'il est le fruit de l'esprit. Et si ce fruit n'est pas présent, ne me dis pas que le reste il y est, parce que c'est un fruit. Alors moi je donne l'image un peu d'une clémentine, hein, pour donner l'image, une clémentine avec plusieurs quartiers. C'est pas toi, Guy. Mais il est question d'un fruit qui y fait partie d'un ensemble et on peut prendre un quartier après l'autre pour le déguster. Et Dieu veut trouver cela dans notre vie. Quand Jésus s'approchera de ce figuier, il attend à trouver un fruit. Frères et sœurs, cet arbre était rempli de feuilles. Et lorsque les feuilles elles sont là, c'est que le fruit est là. Mais finalement, c'était une apparence. Est-ce que nous sommes des chrétiens d'apparence ou d'apparade? Ou sommes-nous ces chrétiens qui portent du fruit, qui réjouit le cœur de Dieu? Et quand on parle de fruits, je suis désolé, mais on ne peut pas enlever la joie, on ne peut pas enlever le reste, c'est un ensemble. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas passer par des moments d'épreuve et de difficulté. Quand l'épreuve et la difficulté, elle est là, c'est difficile d'exprimer la joie. Mais notre joie, finalement, est dans le salut que nous avons en Jésus-Christ, dans le secours que Christ nous accorde. Ma joie, elle est dans le fait que je peux compter sur Dieu, même lorsque les difficultés sont là. Qui peut dire amen à ça? Si je ne pouvais pas compter sur la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que je serais? Le tout, la grâce, c'est pas de la chanter comme si c'était, excusez-moi, une confiture qu'on met sur une tartine. La grâce, c'est pas du beurre qu'on étale, non. La grâce, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui change notre vie. Nous l'avons pas mérité, mais c'est quelque chose qui transforme notre vie. Qui fait de manière que puisque la grâce est rentrée dans mon cœur, il y a des choses que je dois absolument laisser partir. La colère, elle ne peut plus rester. Et si la colère n'est pas loin, qu'est-ce qu'il y a à la place de la colère? La joie, l'amour, la bonté. Il y a tous des éléments qui finalement m'identifient autant qu'enfant de Christ. Et lorsque Christ s'approche de ma vie, lorsque Christ vient chercher un fruit, il le trouve et ça l'honore, parce que ça veut dire que ma relation avec lui, elle est véritable. C'est pas juste une question de dire, Seigneur, donne. Vous savez, il y a des parfois, on est là, on demande à Dieu, donne. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu apportes? Quel est le fruit de ta vie, de ta relation avec le Seigneur? Et il est question finalement de saisir cette parole, puisque cette parole, elle nous est donnée. Et si nous l'avons pas compris, si nous voulons pas la reconnaître, si nous la refusons, finalement, il nous dit que, et c'est clair, net et précis, si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Waouh, c'est grave, c'est dur, non? C'est direct. Où il y a du fruit, où il y en a pas. Alors, 1 Corinthiens 13, il nous invite à quelque chose. Et ça nous prouve bien que tout ce que nous faisons dans la vie d'église, l'amour, il doit être présent. Autrement, tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur, ne sert à rien. C'est pas parce que tu es actif que pour autant c'est le résultat d'une relation spirituelle. Avant de faire, il est question d'être. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Waouh! Ah, moi déjà, je me dirais, waouh, si déjà il déplace les montagnes, c'est pas mal, hein. Mais le Seigneur te dit, rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Waouh, c'est tout ou rien. Moi, je peux pas le définir autrement, c'est tout ou rien, il n'y a pas de possibilité de dire ceci ou cela. Non, c'est il pardonne, il croit, il espère, il supporte. Pof. Et il aime la vérité. Ah, c'est le Pâques. Tu ne peux pas faire autrement que de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, alors à le vivre dans ma vie. Nous avons dit, et je l'ai dit tout à l'heure, l'amour est un principe immuable et éternel. Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40, il nous dira, Maître, quel est le grand commandement de la loi? C'est à Jésus qu'on pose la question. Moi, je crois que si Jésus nous répond, on peut y aller sûr. Qui prend pour 100% les paroles de Jésus? Oui, mais pas juste, ah, c'est moi, c'est souligné en rouge, donc c'est... Non, c'est question de dire si Jésus le dit, c'est ainsi et pas autrement. Alors le Seigneur répondra, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, il lui en demande un, Jésus lui en livre deux. Parce que les deux, ils sont liés. Je ne peux pas dire d'aimer Dieu si je n'aime pas mes frères et sœurs. Il y a un truc qui cloche. Et je ne peux pas dire d'aimer un frère et de ne pas aimer l'autre, mais d'aimer Dieu quand même. Alors, croyez-moi, nous sommes condamnés à nous aimer les uns les autres. Pénible. Seigneur, je suis obligé d'aimer tout le monde. Ben oui. Parce que le Seigneur, il nous aime tous. Après, ne confondons pas l'amour que nous voyons dans le monde avec l'amour que Christ nous demande d'avoir. Le respect que Dieu attend de trouver dans nos cœurs, dans nos intentions, puisqu'il est question d'un amour qui agit d'une manière qui soit cohérente à la volonté de Dieu. Un amour qui ne s'irrite pas, un amour qui ne médite pas le mal, un amour qui n'est pas dans la justice, mais qui est dans la vérité, qui est dans le pardon, qui croit, qui espère, même qui supporte. Supporter, ça veut dire soutenir par amour. Il y a des choses, des fois, qu'on a du mal à supporter, non ? Même en aimant. Je t'aime, mais tu me fatigues. Vous l'avez déjà dit à quelqu'un ? Moi, j'ai utilisé la partie diplomate. Mais peut-être qu'on ne l'exprime pas comme ça. Mais cet amour dont Christ nous invite à être le reflet sur la terre, c'est une loi que je ne peux pas attendre d'arriver au ciel pour la vivre. C'est maintenant. Parce qu'autrement, je ne rentrerai pas dans le ciel. Et comme celui qui arrive dit, ah ben, je vais apprendre à aimer. Non, si tu n'as pas compris avant comment ça marche, tu ne le comprendras pas maintenant. Tu n'as pas ta place ici. Pourquoi ? Mais parce que tu n'as pas aimé, parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Si tu n'as pas pardonné, comment peux-tu être pardonné ? Non ? Dans l'amour, il y a aussi ce fait de supporter les autres, de soutenir les autres. Si tu t'es enfermé sur toi-même et que tu ne vois que ton nombril, ben, il y a un souci. Il y a un changement qui doit se produire et qui doit être profond parce que ce changement, c'est le fait que Christ, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu et Dieu est amour, habite dans ton cœur et cette relation entre toi et Dieu produit un fruit. Mais s'il n'y a pas de fruit, ça veut dire qu'il y a un problème de relation. Et tu vas dire, mais non, c'est moi, je ne supporte pas les autres. Mais le Seigneur ne peut pas habiter dans ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas un temple du Saint-Esprit, mais ton cœur est un champ de bataille. Et Dieu est le Dieu de la paix. Est-ce que Dieu a fait la guerre ? Oui, mais à son ennemi. Donc aujourd'hui, tu es en train de laisser le cœur, le terrain de ton cœur, comme un terrain que l'ennemi se sert. Il s'en sert contre toi, mais il s'en sert aussi contre les autres. Donc il y a quelque chose qui doit forcément changer. L'amour est une dette. Waouh ! Alors ce matin, vous en prenez, on en prend tous pour nos grades. On y va ? Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bande d'endettés que nous sommes. Non ? Est-ce que je vous dois quelque chose ? Est-ce que vous me devez quelque chose ? Une dette pour toi vers les autres, mais un avoir des autres pour toi. Ah, ça nous intéresse la deuxième partie. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et d'un coup, ça se résume. Si on devait faire un résumé de toute la loi dans la parole de Dieu, c'est aimer. D'un coup, ça devient plus facile, non? Vous avez un résumé de la parole de Dieu qui vous dit « aime ». Oui, mais les autres, ils m'aiment pas. Non, toi, aime. Les autres, c'est leur problème avec Dieu, c'est pas le tien. Je t'aimerai quand tu m'aimeras. Et si l'autre se dit la même chose, on n'est pas prêt de le voir, l'amour. Hein. Aimer, ça veut dire finalement se donner. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse retenir quelque chose, puisqu'il y a un texte qui nous en parle d'une manière particulière et qui nous parle de l'amour, qui est une preuve. On va lire ensemble 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que l'amour est une preuve de salut. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi, c'est le texte. Et chose importante, c'est une preuve de paternité. D'ailleurs, on le relit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est que quiconque aime est né de Dieu. Donc c'est une preuve de paternité. Si j'aime, si c'est cet amour dont la parole de Dieu me parle, ça veut dire que je suis né de Dieu. Premièrement, c'est une preuve de salut. Amen. Mais en plus, c'est une preuve de paternité. Et je me dois de vivre selon ce principe. N'est-ce pas? On va plus loin. C'est une preuve de rachat. Regardez bien. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Amen. Si c'est une preuve de paternité, c'est aussi une preuve de rachat. Et puisque j'ai été racheté, je peux proclamer que je suis sauvé. Non? Qu'est-ce qu'il fait que vous pouvez dire que vous êtes sauvé? C'est pas juste, je me lève le matin, je suis sauvé. De quoi, de qui? Si tu vis comme avant, t'es pas sauvé. Tu peux vivre comme une espèce de réfugié, tu peux aller t'enfermer sur une montagne, te dire que tant que tu es enfermé dans ta bulle ou dans ta grotte, tu ne commets pas de péché, mais tu sais, même si tu es enfermé dans une grotte, ah, combien de choses peuvent se passer là-dedans. Les pensées. Ah Seigneur, pardon pour les péchés que nous commettons par nos pensées. Et nos pensées qui entraînent des sentiments. Et d'un coup, un moment je t'aime plus, je t'aime un peu, passionnément, pour la vie, pas du tout. Ça change vite, hein. C'est comme les enfants qui jouent avec la marguerite, pauvre marguerite. Alors si l'amour, première chose, est une preuve de salut, frères et sœurs, assurons-nous d'avoir reçu cet amour et que cet amour nous fasse pouvoir présenter une preuve devant le monde et devant l'ennemi que nous sommes sauvés. Première chose. La deuxième chose, c'est que l'amour est une preuve de perfection. Ah, on aime bien. On aime bien être parfait. C'est la preuve distinctive pour ceux qui ont reçu la vie éternelle. Regardez de quelle perfection il nous parle. On continue notre lecture à partir du verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est... Waouh ! Qui veut être parfait ? Qui est déjà parfait ? Allez, soyez pas timide. Est-ce qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait? Vous êtes d'accord avec moi? On peut mieux faire? Est-ce que vous comprenez aussi, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on doit y arriver à cette perfection? Est-ce qu'on aspire à cette perfection? Qui aspire à ça? N'ayez pas peur de lever la main. C'est envers Dieu. Hein. Dieu voit. Hein. Après, si vous pensez pouvoir continuer à vivre comme vous voulez, le résultat, vous le connaissez déjà. Regardez ce qu'il continue à dire. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pas après, c'est dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Lorsqu'on lit le texte et qu'on s'arrête 5 minutes, je ne sais pas vous, mais moi l'effet que ça me fait, c'est il faut que je le relise. Et là, je commence à souligner. Et à la fin, je me dis, il n'y a rien que je ne peux pas souligner, je dois tout souligner. Et après, je me dis, mais où j'en suis? Finalement, il est question pour moi d'arriver devant la présence du Seigneur, devant la présence de Dieu, le jour du jugement, en ayant déjà accompli ce qui doit être accompli. C'est pas... Bien évidemment, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous partirons dans le ciel, au son de la trompette, les morts ressusciteront les premiers. Qu'est-ce qu'il dit après par la suite? À la suite, c'est les vivants, et dans le ciel, en un instant, nous serons rendus. Mais c'est notre aspect. Ce n'est plus ce corps charnel, ce corps rempli de douleurs, ce corps qui est rempli aussi de cicatrices de notre passé. Non? Mais c'est un être renouvelé, changé, transformé. En effet, ce que Dieu a fait déjà dans notre âme se verra extérieurement. Aussi, et nous serons semblables à lui. Amen. Mais pour autant, il y a quelque chose qui doit se faire dès aujourd'hui, dès à présent, parce qu'autrement, son de la trompette, je serai sourd. Parce que si j'aime pas, mais ça marche pas. J'ai beau dire oui, mais moi j'aime Dieu. Mais es-tu sûr que Dieu aime ce que tu fais? Oui, mais moi j'aime Dieu. Mais vous savez, aimer ne peut pas être un sentiment qui va dans un seul sens. Oui, mais Dieu est amour. Et donc Dieu, il devrait accepter tout. C'est pas ce que la Bible elle me dit, puisqu'il me dit même que le jugement de Dieu commence par sa maison. Donc si le Seigneur commence par nous, imaginez ce matin, allez, on passe une visite médicale et spirituelle. Allongez-vous. Et Dieu commence à regarder l'état de ton œil. Tes oreilles, tu entends bien? Vous entendez bien? Oui, non? Les réflexes. On te touche l'orteil et c'est la main qui part. Ah, il y a un problème de réflexe, là. Non? Et après, il dit, attends, va entendre ton cœur. Et là. Il y a des surprises. Si le Seigneur devait venir ce matin, sommes-nous prêts? Ou avons-nous quelque chose encore à faire? Je vous regarde comme vous me regardez, hein. Mais croyez-moi, je me permets de juger personne. Que Dieu me garde une chose pareille. parce que le discours, il est valable pour vous, mais autant pour moi. Et d'ailleurs, je me suis pris moi déjà en premier. Hein, donc, voilà. D'accord ? Donc, l'amour est une preuve de perfection, ou en tous les cas, de cheminement dans la perfection. Et il est question pour nous d'arriver à ce moment où le Seigneur, le jour qui nous prendra dans son ciel de gloire, nous ayons fait ce qu'il fallait. L'amour que Christ a su manifester à la croix, où il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », devrait être nos paroles. Amen. Et l'amour est une preuve d'authenticité. Je termine, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Versets 19 à 21. Pour nous, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous avez déjà fait à l'école, on vous a donné des problèmes. Oui ? Quand on arrive à l'école, c'est déjà un problème. Ça commence avec des problèmes. Et c'est un problème toute la scolarité, mais même quand on sort de l'école, c'est là qu'ils commencent les gros problèmes. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est le fait quand on fait un exercice de mathématiques, c'est qu'on te demande de faire la preuve, de prouver que ton raisonnement est juste. Et que tu le prends dans un sens ou tu le prends dans l'autre, le résultat, on est d'accord ? Alors, la preuve, elle est là, dans ces trois versets. Pour nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Paf. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Donc, quand tu fais le test, ça passe pas. Où est l'erreur ? Lorsque tu vérifies les choses, parce que le but, c'est que Dieu veut qu'on puisse vérifier nous-mêmes, non ? C'est entre nous et Dieu. Hein. Moi, je viens pas vous faire une visite médicale spirituelle à la maison. Hein. À la limite, je peux vous filer une ordonnance. Celle que le Seigneur me donnera. D'accord ? Mais pour les miracles, c'est au grand chirurgien qu'il faut s'adresser. Et donc, si dans mon analyse, si je n'aime pas, si j'aime Dieu et que j'haïs mon frère, le mot haïr, on va dire haïr, c'est... Mais si tu l'aimes pas, déjà, tu le haïs. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il y a quoi ? Ah non, c'est de l'indifférence. Mais être indifférent aux autres, c'est ne pas les aimer. Et ça équivaut aux yeux de Dieu à de la haine. Alors, il n'y a pas de raccourci avec Dieu, c'est tout ou rien. On l'a dit tout à l'heure. Et le texte te dit, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Suite, s'il vous plaît. Et nous, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que la résultante de la preuve, c'est que s'il aime son frère, il aime aussi Dieu. Et ça marche, non ? Amen. Alors, est-ce qu'on peut ce matin dire, Seigneur, aide-nous à grandir dans l'exercice de la loi immuable de l'amour. Seigneur, aide-nous à la réaliser dans toute sa portée, pour que nous ne soyons pas simplement des lecteurs et que nous puissions peut-être dans notre Bible avoir souligné certaines choses, mais en avoir négligé d'autres. Seigneur, que nous puissions être non pas ce figuier dans lequel tu n'as pas trouvé de fruit et que tu as maudit, mais que nous puissions être cet arbre que tu, il te porte du fruit et ta parole nous dit du fruit qui demeure. Le premier fruit que Dieu veut vivre et voir dans notre vie, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais c'est ce que nous allons être. Et ce matin, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, Peut-être vous entendez des choses qui vous semblent étonnantes, étranges, mais je voudrais vous dire, si le monde avait compris les principes de Dieu, aujourd'hui nous ne serions pas dans les situations dans lesquelles nous sommes. Il n'y aurait pas de la violence comme nous la voyons, il n'y aurait pas de la destruction comme nous la voyons, il n'y aurait pas de la guerre comme nous la voyons, il n'y aurait pas la course au profit, peu importe ce que ça coûte, peu importe qui meurt pour ça. Il y aurait un désir et une volonté de céder les uns les autres. Qui aimerait vivre dans un monde comme ça? Mais ça existe, ce monde. C'est l'éternité. Ici-bas, c'est... Excusez-moi, mais c'est plié. C'est plié. Parce que la nature humaine fait que le monde, elle veut aller dans cette direction-là. C'est horrible. 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 Mais tu n'es pas obligé de prendre cette direction. Si pour la première fois tu as entendu cette parole, je voudrais te dire, mon ami, tu peux changer de direction. Et pour cela, Jésus t'offre de le suivre. T'offre d'accepter son amour, lui qui t'a aimé en premier, et qui veut que cet amour porte en toi un fruit, et un fruit éternel, immuable. Tout à l'heure, on va faire la présentation d'un enfant. Quand on voit un enfant, on essaie tout de suite de voir à qui il ressemble. Papa, maman, papy, mamie, les petits frères, les petites sœurs, non? Mais lorsqu'on sera dans le ciel, il faudra qu'on soit tous reconnaissables. Ils ressemblent tous au Fils aîné, Jésus-Christ. Amen. Qui veut être la copie conforme de Christ? Ah, alors que Dieu nous aide. On va incliner nos têtes et prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole parce que, Seigneur, elle est pour nous, Seigneur, un moyen incroyable d'entendre, Seigneur, et de comprendre ta volonté pour nous, de recevoir, Seigneur, ta pensée pour nous. Seigneur, de corriger ce qui ne va pas pour que le moment venu, Seigneur, le moment où on sera dans ta présence, Seigneur, nous pourrons être, Seigneur, acceptés. Non pas parce que nous avons fait des choses qui nous ont permis d'acheter le salut, mais parce que nous avons tout simplement obéi à ta volonté. Merci Seigneur encore pour cette parole qui continue Seigneur à travailler le cœur de chacun, qui continue Seigneur par ton esprit, Seigneur à œuvrer à l'intérieur de nous. Et tu nous amènes Seigneur à être Seigneur remis en question. Mais que cette remise en question nous amène, Seigneur, à un changement qui te glorifie, qui t'honore, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Merci encore pour les cœurs qui l'ont reçue ce matin. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit continue de œuvrer. Et Seigneur, que personne soit lâché tant qu'il n'a pas compris ce que tu attends de lui. Merci pour ta fidélité, notre Dieu et notre Père. Nous te glorifions et nous t'exaltons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.